Bienvenue aux rencontres d'Hélios. Aujourd'hui, notre émission s'intéresse à la ressourcerie du Blaisois, Les Bonnes Manières, située avenue Wilson à Blois-Vienne. Cette association, fondée en 2016, a ouvert les portes de son magasin, qui s'inscrit dans l'économie circulaire en 2017. Nous irons à la rencontre de son directeur, Cédric Marmuse, mais aussi de salariés et de bénévoles œuvrant dans l'association. Maintenant, place aux rencontres. Bonjour, nous sommes donc avec Cédric Marmuse, directeur de la ressourcerie Les Bonnes Manières du Blaisois.
Bonjour Julie, bonjour Clément.
Bonjour, donc quand la ressourcerie a-t-elle été créée ?
Alors l'association, elle a été créée en 2016, mais on a ouvert nos portes qu'en juin 2017. On a eu une année en fait de montage de projet. On avait même commencé un petit peu avant l'association. Les premières démarches ont eu lieu fin 2015, notamment pour se renseigner auprès d'Aglopolis sur la pertinence du projet sur le territoire. L'association est née donc en mai 2016 et puis on a finalisé nos dossiers de subvention sur à peu près une année, donc pour ouvrir en juin 2017.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui différencie la ressourcerie d'autres associations comme Emmaüs, la Croix-Rouge ?
Alors, j'ai souvent tendance à dire qu'on fait le même métier qu'Emmaüs ou la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'on collecte des objets pour leur redonner une seconde vie. La différence, c'est que les associations comme Emmaüs ou le Secours Populaire ou le Secours Catholique ont d'abord été créées dans une optique caritative. À l'époque, hein, c'est des associations qui sont déjà très 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 anciennes. Et les premières ressourceries sont apparues en France au début des années 2000, mais avec un objectif de réduction des déchets et un objectif donc environnemental. Mais sinon, on fait à peu près le même métier, avec des process qui sont différents entre nos structures, mais il y a de plus en plus de points de convergence entre toutes les structures de réemploi, en tout cas en France.
Donc nous sommes maintenant avec Christiane, qui est bénévole à la ressourcerie et qui est aussi membre du CA. Donc, Christiane, depuis combien de temps es-tu à la ressourcerie ?
Je suis à la ressourcerie depuis pratiquement sa création. Ça doit faire 5-6 ans, 6 ans peut-être, oui.
D'accord, depuis combien de temps tu es membre du conseil d'administration ?
Eh bien, depuis 6 ans.
Depuis le début.
Oui, voilà, depuis le début. Je me suis investie dans l'association et donc je fais partie du conseil d'administration, depuis 5 ans.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne ?
Alors, le principe, donc la ressourcerie, c'est une association, donc ça fonctionne avec un président, un secrétaire, un trésorier et les membres du conseil d'administration. Et à la ressourcerie, nous avons fait le choix de faire une gestion commune, c'est-à-dire que chaque membre du CA est coprésident. Donc en fait, on fonctionne en coprésident, c'est-à-dire que chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir du président, mais ce qui entraîne le fait qu'il faut que les décisions soient prises ensemble.
D'accord. Donc c'est vous qui dirigez la ressourcerie.
Voilà, on est en fait un groupe qui dirigeons la ressourcerie. Voilà.
D'accord, et bien merci beaucoup. Comment fonctionne la ressourcerie ?
Alors la ressourcerie, elle a 4 piliers d'activité. D'abord, évidemment, la collecte avec les dons et les apports des gens. On peut, à la ressourcerie du Blaisois Les Bonnes Manières, apporter soit directement sur notre site à Blois-Vienne, à notre dépôt qui est au 55 avenue du Président Wilson, mais on peut également apporter, dans le cadre d'un partenariat avec Aglopolis, ces objets à certains horaires, à la déchetterie de Valoir-sur-Cisse, anciennement Chouzy-sur-Cisse, et à la déchetterie de la chaussée Saint-Victor, où Aglopolis a mis en place des caissons de réemploi sur lesquels on est financé pour apporter notre expertise en renseignant les usagers des déchetteries sur ce qui est réemployable ou pas et ce qu'on peut sauver comme objet. Ensuite, on a la partie valorisation. La valorisation, c'est peut-être le plus gros travail invisible pour le grand public, mais c'est le moment où on trie ce qui est en état d'usage, ce qui ne l'est plus. Et la spécificité justement des ressourceries historiquement, et ça se développe de plus en plus, c'est de travailler avec des éco-organismes, ces éco-organismes qui récupèrent en fait les objets, soit pour les recycler, soit pour les démanteler, et essayer d'offrir une seconde vie aux matériaux. C'est-à-dire que l'idée d'une ressourcerie, c'est qu'il y en ait le moins possible qui retourne au tout venant ou à l'enfouissement. On a un troisième pilier qui est la redistribution des objets, en fait principalement la vente à travers la boutique solidaire, où on essaye de revendre les objets à des prix accessibles. En général, notre référentiel de prix, c'est un tiers du prix du neuf, et on est souvent plus à un quart qu'à un tiers du prix du neuf, donc avec tout ce qui fait... un poste de vente, un accueil, une caisse, une pré-caisse, etc. Et puis la quatrième fonction d'une ressourcerie, qui est peut-être la plus importante et qui nous différencie justement d'autres associations historiques de réemploi, c'est le volet sensibilisation à la réduction des déchets, qui est assuré ici par une animatrice salariée et beaucoup de bénévoles, puisqu'on en reparlera peut-être, mais l'activité est soutenue aussi par l'implication de beaucoup de bénévoles. Et cette fonction sensibilisation, même si elle est partagée finalement entre tous les gens qui prennent part à l'activité de la ressourcerie, on essaye de la valoriser à travers un programme d'animation, que ce soit du loisir créatif, des Ripper Café. On est labellisé Ripper Café depuis 2 ans maintenant. Donc les Ripper Café, ça consiste à venir avec un appareil qui ne fonctionne plus, et avec les bons conseils d'autres bénévoles, d'essayer de réparer cet objet.
Donc nous sommes avec Anne, donc, qui est l'animatrice de la ressourcerie. Donc Anne, ça fait combien de temps que tu travailles ici ?
Ça fait 4 ans.
4 ans ?
Ça, depuis septembre.
Ok, tu peux nous décrire un peu ton rôle d'animation ?
Donc j'organise des actions de sensibilisation à la réduction des déchets. Et plus généralement, des actions autour de l'environnement. Donc il y a 3 grands types d'actions. Il y a des actions de réparation pour prolonger la vie des objets, donc Ripper Café, couture et électro tous les mois, avec une antenne à Candé-sur-Beuvron pour tout ce qui est électro. Donc électro, c'est les petits appareils électroménagers, grille-pain, cafetière, aspirateur, c'est ce qu'on a le plus. On répare ensemble. On a rejoint le mouvement international Ripper Café, ça fait 3 ans maintenant, plus de 3 ans même. Et donc l'idée, c'est d'apprendre à réparer en fait, pas de laisser et de faire réparer. Couture, pareil. On apprend à utiliser une machine dont on a hérité. On peut apprendre à recoudre un bouton. Enfin, il y a des choses très simples. Faire une reprise, réparer, etc. Et puis faire des petits outils de zéro déchet en couture, c'est-à-dire des lingettes, des essuie-tout, des sacs à vrac, choses comme ça. Donc ça, c'est pour la partie réparation. La deuxième grosse partie, c'est la partie création. Donc plutôt de l'upcycling, du détournement d'objets. On va faire une lumière, un abat-jour avec une théière qu'on a percée. Voilà. On va faire des attrape-rêves avec des cercles d'abat-jour. On va faire, voilà. Et puis la troisième partie, c'est plutôt des événements. Donc un ciné-débat avec les lobbies ou avec des jeunes sur un grand écran. On a un partenariat avec la LCV, on peut se mettre dans des salles là-bas. Ou je peux raconter des histoires sur le thème de l'environnement. Ou une machine improbable à chanter. Ça, je ne vais pas vous décrire ça maintenant parce que ça serait un peu trop long. Mais voilà, plein de choses.
Oui, je l'ai vu, c'était très surprenant. voilà, du coup, donc si on veut te contacter pour participer à une animation, donc les informations.
Voilà, donc les informations sont sur la brochure. Vous pouvez envoyer un message via Messenger. Par texto ou par. Vous laissez un message sur le répondeur des animations, c'est 06 61 19 36 74 ou sur le mail Atelier les bonnes manières, tout au pluriel, atelier et évidemment les bonnes manières, @gmail.com.
Voilà, et ben merci beaucoup.
Et ben de rien, merci à vous. Au revoir.
Voilà un petit peu comment fonctionne la ressourcerie avec ses quatre fonctions, collecte, valorisation, vente et sensibilisation à l'environnement.
Très bien. Et comment aller financer la ressourcerie ?
Alors, la ressourcerie, au démarrage, a été financée avec 80% d'argent public sur des appels à projets régionaux et européens. On a bénéficié d'un appel à projet qui s'appelle À vos idées, qui est un dispositif qui finance les initiatives citoyennes sur le territoire de la région Centre-Val-de-Loire. Et puis les fonds leaders qui sont des fonds européens qui servent à dynamiser plutôt des zones rurales. Mais ici, les fonds leaders sont distribués par le Pays des Châteaux, et le Pays des Châteaux couvre à la fois Aglopolis, Grand Chambord et Beauce-Val-de-Loire, qui sont des territoires plus ruraux. Et donc, vu qu'on est un peu à cheval et qu'on s'adresse aussi à un public qui est au sud de la Loire, donc plutôt périurbain, on rentrait dans ces critères de dynamisation de zones semi-rurales, même si la ressourcerie est située en ville, mais rappelons-lui, une ville à taille humaine. Hein, même si on est une ville-préfecture, on reste quand même une ville à taille humaine.
Donc ben, je vais te laisser te présenter.
Ok, alors moi c'est Marie-Catherine. Je suis bénévole à la ressourcerie depuis le mois de novembre de l'année dernière, donc ça va faire un an.
D'accord, et comment tu as connu la ressourcerie ?
Alors la ressourcerie, je l'ai connue déjà, je le connaissais parce que comme j'habite dans le quartier depuis un petit moment déjà, je venais faire un tour à la ressourcerie, et puis après je l'ai beaucoup mieux connue parce que ma fille a fait un stage ici.
D'accord, et donc maintenant tu as...
Donc maintenant, voilà, j'ai voulu être bénévole, et puis mon fils travaille aussi ici maintenant, en salarié.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager comme bénévole ?
L'aide. Surtout l'aide, donner un coup de main, le fait de travailler avec des gens, le côté social en fait.
Très bien. Et quelles tâches tu effectues ?
Un peu de tout. Je fais du tri textile. Au tout début, j'étais à l'accueil en boutique. Maintenant, je suis plus sur le tri textile. Je fais un peu de tout en fait. Je touche à tout.
D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont envie de s'engager comme bénévole ?
Oula, bonne question. qu'est-ce que je pourrais dire aux personnes qui veulent être bénévoles ? Déjà qu'ils seront les bienvenus et qu'on serait fiers de les recevoir parce que c'est une association qui mérite le coup d'être connue et surtout on a besoin de bénévoles.
Très bien, merci beaucoup Marie.
De rien.
On était à 80% au démarrage d'argent public pour 20% de recettes propres. Et puis on a inversé la tendance au fil des années. Et aujourd'hui on est à peu près à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est à 20% d'argent public, notamment à travers le dispositif CAPASSO de la région Centre, qui finance des postes de salariés dans les associations. Il n'y a plus qu'en région Centre-Val-de-Loire, d'ailleurs, que ce genre de dispositif existe. Et puis, on est à 80% de recettes propres. Donc, on est quasiment autonome. Et on va dire que les 20% d'argent public qui sont là sont justement là pour financer des actions plus innovantes. On va dire tout ce qui ne rapporte pas de l'argent. Je parlais notamment de la sensibilisation. Certes, on a des prestations auprès des écoles ou d'autres associations qui sont rémunérées, mais tout ça, c'est pas forcément des actions qui sont rentables. Et donc, cet argent public sert justement à valoriser tout ce côté animation et sensibilisation autour de l'environnement.
Ok, je vais vous laisser vous présenter.
Ouais. D'accord, moi je m'appelle Daniel et je suis bénévole.
Christelle, je suis bénévole.
Sylvie, je suis bénévole depuis novembre 2022.
C'est la première question. Depuis combien de temps vous êtes bénévole ici ?
Depuis novembre 2022, comme Sylvie, on est arrivés ensemble.
Voilà. Et toi, Christelle ?
Août 2023.
Et donc, comment avez-vous connu la ressourcerie ?
Déjà personnellement, parce que j'étais déjà venue à la ressourcerie. Après, on a une amie qui était déjà à la ressourcerie qui nous a
incité très fortement, déjà depuis quelques temps. Et bon, il faut avoir du temps quand même pour venir à la ressourcerie. Donc du coup, comme j'ai cessé mon activité l'année dernière, et ben, c'est naturellement que je suis venue vers la ressourcerie pour donner un peu de temps.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager ?
L'envie de m'engager, je pense que comme j'ai du temps, bah, j'en fais profiter les autres. Je trouve que la ressourcerie, c'est une bonne initiative. Ça remplit deux objectifs. Un objectif financier pour certains, un objectif de récupération, le sens d'économiser des ressources. Donc voilà, ça remplit deux objectifs qui seront bien remplis, je pense, par la ressourcerie.
Très bien. Et quelles tâches tu effectues ?
Alors un petit peu tout, du tri, ramassage de cintres, je me suis découvert un nouveau métier, c'est ramasser les cintres tous les mardis quand on range la ressourcerie. Des ventes aussi, je viens les mercredis ou vendredis, ça dépend, donc avec un contact avec le public qui est fort sympathique.
Merci beaucoup.
Et Daniel, t'as rien dit ?
Allez,
moi j'étais un peu loin du micro.
Bah, on se retrouve un peu avec Sylvie sur les mêmes bases, c'est-à-dire que moi, j'avais du temps devant moi parce que mon activité avait cessé. Et puis, je connaissais la ressourcerie par le fait que j'étais déjà allée. Et je la connais. Et puis, on a été incité par, on est arrivé en même temps que Sylvie, par une amie commune. Donc, ça nous a aidé à faire le pas d'entrer dans la structure en tant que bénévole. Voilà.
Ok, et puis dernière question, qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui souhaite s'engager comme bénévole ?
Bah allez-y.
Eh bien, faut pas hésiter. Toutes les associations demandent plein de bonne volonté, et plein de bras et plein d'idées. Donc il faut y aller. Et c'est sympathique, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie personnelle. Donc c'est très enrichissant, c'est super.
Merci beaucoup.
De rien.
Eh bien, de rien.
Alors, quels sont les partenaires de la ressourcerie et comment fonctionnent ces partenariats ?
Alors, il y a différents partenariats. Il y a d'abord les financeurs, donc j'ai parlé principalement de la région Centre-Val de Loire. J'ai parlé également d'Aglopolis, où là, on est dans une convention d'objectifs. Donc, en fait, c'est un contrat. C'est l'Aglopolis qui est en fait le client de la ressourcerie qui nous rémunère pour être présent en déchetterie et qui rémunère aussi quelques animations, notamment les Ripper Café, sont rémunérés par Aglopolis. Et puis, on a, notamment dans le cadre des animations, énormément de partenaires, d'acteurs de territoire. Je peux citer évidemment nos proches voisins, la maison de quartier, la LCV, avec qui on travaille depuis très longtemps, la ville de Blois, où on travaille avec le service jeunesse, notamment la fabrique. On travaille également avec la ville de Blois pour Délire d'hiver. On travaille avec la mairie de Candé-sur-Beuvron, où il y a des Ripper Café qui sont organisés à Candé-sur-Beuvron chaque mois. On travaille avec une association installée dans les quartiers nord qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, qui ont un atelier qui travaille notamment tout ce qui est autour du bois de récupération pour en faire autre chose. On a déjà travaillé avec l'association Blogul et puis on a également travaillé avec nos nouveaux voisins, le bar à couture aussi de l'association Talents Croisés qui s'est installé au mois d'avril à la même adresse que la ressourcerie. Donc de nombreux partenaires sur tout le territoire en fonction des opportunités et puis peut-être aussi bientôt des acteurs du secteur lucratif. On est en discussion par exemple avec le Roi Merlin qui cherche à faire du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, ça consiste pour une entreprise à laisser du temps libre à des salariés pour aller s'investir dans des causes. Et là, notamment, le Roi Merlin cherche à proposer à ses salariés de s'investir sur la question de la réduction des déchets. Donc, il y aura certainement des salariés qui viendront donner de leur temps et s'inscrire dans du bénévolat à la ressourcerie. Et puis, il y a aussi un partenaire important que vous connaissez bien, qui est la clinique de Sommerie, puisqu'on accueille depuis quelques mois des patients de l'hôpital de jour qui viennent comme bénévoles mettre la main à la pâte et contribuer à l'action de réduction des déchets de la ressourcerie.
Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ce genre. un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Avec Jade, donc, qui est salariée à la ressourcerie. Donc, depuis combien de temps travailles-tu à la ressourcerie ?
Alors, ça va faire 2 ans que je travaille ici. Je suis arrivée en tant qu'apprentie en décembre 2021. J'ai fait mon cursus d'une année. Ensuite, j'ai été embauchée en septembre 2022.
D'accord. Et quel est ton rôle ?
Alors, mon rôle, il est un peu... j'ai le rôle polyvalent, c'est-à-dire que je vais être autant en boutique qu'au dépôt, et puis quand les collègues qui sont en déchetterie sont en vacances ou malades ou absents, je vais les remplacer là-bas. De même pour Lucie, qui est en boutique en ligne, fut un temps je la remplaçais quand elle était en vacances. Donc voilà.
Ok, tu peux nous parler un peu plus de la boutique en ligne ?
Alors la boutique en ligne, on est hébergé par le site du label Emmaüs. Donc c'est un site qui regroupe à la fois les ressourceries et à la fois les Emmaüs, qui peuvent vendre tout type d'objets. Alors il y en a qui sont spécialisés dans les meubles, il y en a qui font un peu de tout, comme Lucie. En revanche, nous on va pas pouvoir vendre ce qui est gros meubles, parce que on n'a pas les moyens nécessaires pour les envoyer ensuite ou pour les mettre en click and collect. Et voilà.
Et sur quel site on peut retrouver la boutique en ligne ?
Eh bah, ben, il suffit de taper sur internet ressourcerie les bonnes manières à Blois. Et ensuite, on va tomber normalement sur le deuxième lien qui va rediriger vers le label Emmaüs. Sinon, on tape directement label Emmaüs, puis on peut retrouver ressourcerie les bonnes manières dessus.
Ok, et quels sont les avantages et inconvénients du travail à la ressourcerie ?
Alors, les avantages depuis que je suis ici, c'est que j'ai pu apprendre énormément de choses sur les déchets. Sur combien de tonnes les gens jettent par an, combien nous de tonnes on réemploie, et on apprend au fur et à mesure du travail quel objet vaut quel prix, quel matériau, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. On apprend aussi beaucoup la relation humaine, donc dans le social, quand c'est avec les clients, les gens qui font des dépôts, ou même les contacts qu'on peut se créer via nos différents partenaires. Et c'est assez intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec des objets, quelle manière on a de les transformer. Parce qu'on a des clients qui achètent des choses des fois pour en faire des vêtements, par exemple des napperons de table. J'ai déjà vu une cliente faire des vêtements avec. Et on apprend avec tout le monde et c'est assez intéressant.
Ok, et bien merci beaucoup.
Et bien de rien.
Combien y a-t-il de salariés et de bénévoles à peu près ?
Alors, on est à une dizaine de salariés. On est à 10 salariés, dont 6 en CDI. Beaucoup ont commencé en contrat aidé, qui sont passés ensuite en CDI, financés pour deux d'entre eux, moi mon poste de directeur et le poste d'un des référents sur la collecte sont financés par Capasso. On a une quarantaine de bénévoles, alors c'est pas toujours les mêmes, il y a un noyau dur historique, on va dire d'une quinzaine de bénévoles qui sont là depuis le début. Après, il y a beaucoup de gens qui sont passés, mais qui étaient soit dans des transitions professionnelles, etc. Donc, qui sont venus un temps et puis qui ont retrouvé du travail ou qui ont trouvé une autre activité. Mais en tout cas, on est à environ 40 bénévoles sur une année, sachant qu'il y a des bénévoles qui vont venir 3 fois par semaine, d'autres qui vont venir une fois par mois. Évidemment, c'est très aléatoire, vu que ça dépend du temps qu'ils ont à donner. Mais ça représente, en tout cas, le bénévolat, 3 équivalents temps plein. Au niveau annuel, c'est-à-dire que si on n'avait pas le bénévolat, il faudrait qu'on ait 3 personnes en plus à temps plein à embaucher. Donc c'est une énorme contribution en nature, c'est autant d'argent qu'on ne dépense pas. Et c'est une contribution, nous, qu'on valorise en nature, notamment d'un point de vue comptable. Donc c'est une vraie contribution. Et puis on accueille également des services civiques. On accueille des jeunes dans le cadre du service national universel qui viennent en mission d'intérêt général, faire 84 heures. On a également des TIGES, que ce soit avec le SPIP, le service de prévention, qui travaille avec la justice pour faire effectuer les peines de TIGES.
Je te coupe 2 minutes pour expliquer que TIGES, c'est travaux d'intérêt général.
Merci, tu as raison de le préciser, travaux d'intérêt général. On a également des chantiers éducatifs, qui font partie, qui sont gérés par l'association LACESM, dont le siège est pas très loin ici à Blois-Vienne, avec qui on travaille également. Donc voilà, on parlait tout à l'heure des partenariats, mais en fait, ils sont multiples, ces partenariats, puisqu'on travaille autant avec le ministère de la Justice que des associations des éducateurs spécialisés, etc. Donc on essaye de rester très ouvert. C'est parfois un peu complexe à gérer d'être aussi ouvert à différents acteurs, mais ça fait aussi partie de la sensibilisation de tous les citoyens et de tous les publics à ce qu'on défend, c'est-à-dire la réduction des déchets. Donc en accueillant toutes ces personnes, c'est aussi une manière de les sensibiliser à la réduction des déchets. Donc c'est pour ça qu'on est aussi vigilant, même si c'est parfois compliqué, de rester le plus ouvert possible à différents publics.
Donc maintenant, nous sommes avec Agathe et Elsa qui sont en service civique à la ressourcerie. Donc les filles, depuis combien de temps vous êtes en service civique ?
Depuis une semaine.
Et moi, pareil, une semaine aussi.
Ok, comment vous avez connu la ressourcerie ?
Moi, j'ai connu parce que j'y étais allée en tant que cliente et ma mère m'a aussi conseillé de faire du bénévolat. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas faire un service civique.
Ok, quel est votre rôle donc en tant que service civique ?
Oh là là, ça c'est dur de l'expliquer.
Moi, mon rôle, c'est d'animer avec ma tutrice Anne les activités et les événements que la ressourcerie propose. Et après, c'est un peu, j'aide en pré-caisse, en accueil, je fais du rangement, du tri, du réassort.
Moi, c'est pareil, du coup, j'apprends à occuper différents postes. Et j'ai quelques missions aussi à remplir, je dois renouveler faire une mise à jour du livret du bénévole parce qu'il manque des informations. Je dois faire un questionnaire pour les bénévoles et je dois aussi essayer de gérer la cohésion entre les bénévoles, ce qui n'est pas forcément simple.
Et donc, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler à la ressourcerie ?
Moi, pour l'instant, j'ai pas vu d'inconvénients. Moi, ça me permet de prendre confiance en moi, de voir que je peux gérer certaines choses qui sont pas très difficiles à faire et du coup... Je me plais ici en tout cas.
Les choses bien, c'est que déjà on a des bonnes horaires.
C'est vrai.
Que on est bien traité, que tout le monde est super gentil, que on est toujours guidé, on n'est pas perdu, on sait où ce qu'il faut faire, tout ça, on est bien. Mm-hmm. On est dans un cadre bienveillant.
Très bien, merci beaucoup.
Mais de rien.
Et est-ce qu'il y a un public type justement à la ressourcerie ?
Alors non, il y a eu une volonté au départ qui était quand on a voulu s'installer, de dire il y a des acteurs du réemploi qui sont tous au nord de la Loire, à Blois, et il n'y en a plus au sud. Alors il y a très longtemps, il y avait Emmaüs à Blois-Vienne, les plus anciens de Blois-Vienne s'en souviennent encore, mais on trouvait ça intéressant de se tourner vers le sud de la Loire, et au moins sur la première couronne, Vineuil, Saint-Gervais, etc., d'offrir une solution pour ces gens-là, sans qu'ils aient besoin de, pour les habitants, pour qu'ils aient pas besoin de traverser la Loire. Et c'est vrai que la spécificité de Blois-Vienne, c'est déjà d'avoir une mixité des habitants qui est très importante. On a toutes les classes sociales qui sont représentées. Et comme je le disais au début de l'interview, l'objet d'une ressourcerie, même si on peut rendre service parce qu'on a des objets de première nécessité qui sont vraiment accessibles, l'idée c'est vraiment de mélanger tous les publics. Notre sujet, nous, c'est vraiment la réduction des déchets, c'est vraiment l'environnement. Et puis pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des gens qui ont un pouvoir d'achat différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui contribuent en donnant, il y a des gens qui viennent parce qu'ils achètent, et il y a des gens qui venaient ici par nécessité, et à force de venir, on leur a aussi expliqué qu'en fait, ils faisaient aussi une bonne action pour la planète. Donc l'idée, c'est de dire qu'on peut être peut-être dans le besoin, mais qu'en fait, on est aussi là pour contribuer à moins d'empreintes carbone, à moins d'impact sur nos ressources naturelles, et que en fait, consommer en seconde main, c'est bon pour la planète. Donc voilà, en termes de... Vraiment, nous, on a la chance, par notre positionnement, je pense, parce qu'on a vraiment une clientèle vraiment de quartier qui est très, très fidèle. Mais voilà, et puis on est très accessible. Par exemple, avec le bus, on a un arrêt de bus qui est juste devant. On a la ligne A qui va dans les quartiers nord, donc on est aussi très accessible pour les quartiers nord. Enfin voilà, on a des gens du centre-ville qui ont juste à traverser le pont. On a en effet plutôt Saint-Gervais-Vineuil, où là on a des publics plutôt de la classe moyenne, etc. Donc voilà, tous ces gens-là se retrouvent à la ressourcerie. Il n'y a pas de public spécifique, et c'est vraiment la volonté d'une ressourcerie d'être ouverte à toute la société, dans toutes ses catégories.
Ok. Et sinon, quel est le parcours d'un objet qui arrive à la ressourcerie ?
Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure en parlant des quatre fonctions, mais l'objet, lorsqu'il arrive, déjà, il est pesé, parce que notre indicateur, nous, principal, c'est de savoir combien on collecte et combien on sauve d'objets. Donc, on est obligé de tout tracer, de tout peser par catégorie, le textile, les jouets, le bricolage, etc., etc. Donc, tout est rentré dans un logiciel. Pareil, à la sortie, à la caisse, il y a des catégories d'objets, notamment les catégories d'objets pour lesquels on est conventionné par un éco-organisme qui va pouvoir les recycler. On note tous les poids. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé cette étape de collecte, on passe à la valorisation. Et là, c'est les petites mains expertes de la ressourcerie, que ce soit bénévoles ou salariés, qui vont juger de l'état de l'objet. Est-ce qu'il est réemployable en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention à faire? Est-ce qu'il y a un petit coup de chiffon à passer? Est-ce qu'il y a un petit coup de vinaigre blanc pour redonner du lustre? Si c'est un appareil électrique, on va vérifier qu'il s'allume, qu'il s'éteint. On va essayer, par exemple, je ne sais pas, un congélateur, on va essayer de le faire tourner au moins toute une nuit pour vérifier qu'en effet, il s'allume et qu'il conserve bien le froid, vérifier qu'il n'y ait pas un petit problème de joint. S'il passe toutes ces étapes-là et qu'en l'état, il peut être revendu, il est revendu. Et puis, parfois, mais vraiment à la marge, ça peut être des petites réparations, mais des petites réparations, ça peut être tout bête, hein. Ça peut être juste une petite vis qui manque sur quelque chose, un petit point de colle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape de valorisation, eh bien là, on passe à l'étape plus facile à comprendre, qui est l'étape vente. Donc avec le réassort des rayons, ranger les objets au bon endroit, déterminer les prix de vente, c'est très important. Il y a des objets à prix fixe, et puis il y a des objets sur lesquels, voilà, qui sont plus insolites. On n'a pas des batteries en série, par exemple, mais des batteries pour faire de la musique, on en a une récemment. Bon, là, on applique la règle de un tiers du prix. Voilà, et puis ensuite, il y a l'accueil du public, la caisse. On a également une pré-caisse pour fluidifier la caisse, parce que nos locaux sont quand même un peu étroits par rapport à la densité de passages qu'on peut recevoir. Et voilà, et puis après, une fois que ces objets sont vendus, alors quand on n'arrive pas à les vendre, on a également une petite zone de gratuité pour leur laisser une dernière chance avant qu'ils retournent en déchetterie.
Alors, je vais te laisser te présenter.
Oui, alors je suis Berthe Arnault, je suis bénévole donc à la ressourcerie, ça fait déjà 2 ans de ça. Voilà, je viens tous les mercredis matin et quelquefois quand il y a du monde qui me manque, on me demande de venir encore un peu et je dis oui, voilà.
Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir bénévole à la ressourcerie?
C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans la rue qui s'appelle Lucille.
Oui.
Et non, c'était Martine, pardon, Martine. Et je lui ai dit, maintenant je suis à la retraite depuis 2 ans. Je cherche à faire un peu de bénévolat, les associations, tout ça. Elle m'a dit, va donc à la ressourcerie parce qu'ils ont besoin de personnes. Donc je suis venue, j'ai été très bien accueillie. Et puis voilà, et c'est comme ça que je suis devenue bénévole, voilà.
D'accord. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui voudrait devenir bénévole?
De venir voir comment ça se passe et de lui dire que ça peut être très sympa et qu'il y a une bonne ambiance et que c'est agréable, le contact avec les clients, tout ça, c'est pas... Elle peut venir qu'une matinée ou qu'une après-midi, en semaine ou plus, si elle veut. Donc, voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, toi, ici?
Moi, je suis à l'après-caisse. Ça veut dire que je m'occupe que de la partie textile. Les gens prennent des vêtements, et puis des vêtements ou des nappes pour la maison, des linges, des draps, etc. Et ils passent ici pour que je leur fasse un ticket avec le prix, parce qu'ils ne peuvent pas passer avec tout ce qu'ils ont pris à la caisse directement. Mmh. Parce qu'il y a toujours la queue et s'il faut qu'ils regardent vêtement après vêtement. Donc moi, je regarde, je mets le prix et puis je redonne un ticket et ils vont à la caisse, ils payent. Voilà.
D'accord, merci beaucoup.
C'est tout. Voilà.
Oui, c'est tout. C'est pas grand-chose. Et donc certains objets qui ne sont pas réutilisables, ils sont renvoyés vers des filières de recyclage.
Exactement. On a commencé au tout début, on a commencé à travailler avec le Relais qui est une association qui est née avec le mouvement Emmaüs, qui récupère tout ce qui est textile, linge de maison. Le Relais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie de vêtements, même nous quand on a des vêtements qu'on est un petit peu sélectif, par exemple, l'été, quand on a déjà des rayons remplis de t-shirts et de shorts, parfois on a des vêtements en bon état, mais on ne sait pas quoi faire. Bon, ils partent au Relais, mais ce n'est pas très grave parce que le Relais derrière les retrie pour les revendre aussi dans son réseau de boutiques solidaires. Alors, il n'y en a pas dans la région, il n'y en a pas à Blois, mais dans le nord et dans l'est de la France, il y en a beaucoup. Et puis, ils ont également une usine dans le Pas-de-Calais où ils fabriquent du métis. Le métis est un isolant fabriqué donc à base de chutes de vêtements. C'est des vêtements qui sont broyés, qui sont... condensé on retrouve notamment cet isolant dans les voitures, vous savez, dans les portières de voitures quand on arrache, on passe pas sa vie à arracher les portières de voitures, mais en fait c'est un isolant qui a pour spécificité d'avoir une meilleure capacité d'isolation phonique et donc c'est utilisé en effet dès qu'on a besoin d'une isolation phonique forte, on utilise ce matériau, le métis. On a également Écologique qui s'occupe des D3E. Les D3E, c'est les déchets d'équipement électrique et électronique. Et donc là, on est rémunéré par l'éco-contribution. Il y a une écotaxe. Quand vous achetez un appareil neuf, vous avez un appareil électrique, une cafetière, vous avez toujours une écotaxe, vous regarderez. Et cette écotaxe, elle vient abonder un fonds de réemploi. Et ce fonds de réemploi, et il permet de rémunérer les collecteurs comme nous. Voilà, en fait, ce système a été inventé pour que les objets puissent aller dans les bonnes filières et ne se retrouvent pas jetés dans la nature ou jetés au tournant. Voilà. C'est une sorte d'incitation financière pour qu'on récupère les objets, qu'on les remette dans les bonnes filières. On travaille depuis peu avec Écomaison qui s'occupe des filières mobilier, des filières jouets et des filières bricots, on est en train de le mettre en place. On a aussi une filière qu'on appelle ASL, articles de sport et loisirs. Donc articles de sport et loisirs, ça va être les raquettes, les tentes de camping, les rollers, les chaussures de foot. Enfin bon, voilà, c'est assez vaste. Pour toutes ces filières, parce qu'on les remet dans des bonnes filières pour que ces objets soient recyclés, on va avoir une petite rémunération. Et en fait, c'est en train de s'accélérer là, le mouvement de conventionnement avec ces éco-organismes parce qu'il y a eu la loi AGEC en 2020. Alors la loi AGEC, je ne l'ai plus en tête, mais bon, le EC à la fin, c'est économie circulaire. Donc cette loi générale, qui fonctionne autant pour le secteur lucratif que le champ de l'économie sociale et solidaire dont on fait partie, a notamment permis une meilleure rémunération par les fonds de réemploi des collecteurs. Donc voilà, et notamment il y a des nouvelles filières qui sont nées aussi pour recycler un maximum de catégories d'objets. Et donc là, on est dans toute cette mouvance qui rend à la fois le travail un peu plus technique, qui peut aussi créer parfois des difficultés, notamment avec le bénévolat, parce que ça devient... On vient dans un travail qui a de plus en plus de procédures à mettre en œuvre. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Ça demande de plus en plus de compétences. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des salariés à la ressourcerie, en plus des bénévoles qui s'impliquent.
Ok. Et il y a aussi les livres qui sont recyclés.
Oui, j'ai oublié les livres. Alors, les livres vont chez c'est une entreprise privée qui s'appelle Paprec, et en effet, qui recycle les livres, qu'on refait de la pâte à papier derrière. Voilà, les livres, ça fait partie des objets qu'on reçoit. Après le textile, on reçoit énormément de livres, et c'est pas forcément ce qu'on vend le plus. Ça peut paraître surprenant, mais par exemple, quand on nous demande d'acheter... en troisième Germinal, et que tous les gamins achètent Germinal et que ça reste au fond d'une bibliothèque. Bon, nous, une fois qu'on a 2-3 Germinal dans nos étagères en boutique, bah, les autres, on ne sait pas quoi en faire. Donc, soit ils partent en gratuité, mais quand ils ne partent pas en gratuité, ils partent malheureusement en recyclage.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va rappeler l'adresse de la ressourcerie.
Qui est le 59 avenue du Président Wilson pour la partie boutique. Et pour la partie dépôt, c'est à 30 mètres au 55 avenue du Président Wilson.
D'accord. Et les horaires d'ouverture ?
Alors, nous sommes ouverts autant pour la boutique que pour les dépôts aux mêmes horaires, c'est-à-dire le mercredi de 10h à 13h et de 15h à 19h, le vendredi uniquement l'après-midi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h. Et vous pouvez nous retrouver pour les dépôts en déchetterie, à la déchetterie de Valoir-sur-Cis, le mardi, le vendredi, le samedi de 14h à 17h20, le mercredi de 9h à 12h20, et à la chaussée Saint-Victor, vous pouvez nous retrouver donc pour les dépôts à la déchetterie, le mardi et le mercredi de 14h à 17h20, et le samedi de 9h à 12h20 et de 14h à 17h20. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la photo de couverture de notre page Facebook ainsi que sur les moteurs de recherche sur Internet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Cette émission sera rediffusée tous les mardis d'octobre à 11h et disponible quand vous le voudrez en podcast sur le site de Studio Zef. À bientôt pour une prochaine émission au mois de novembre.